Chers frères et sœurs, 40 jours après la fête de Noël, nous voici en cette fête de lumière où Jésus lui-même est présenté comme la lumière des nations. Si nous nous rappelons bien les lectures de Noël, la première lecture du livre de l'Exode disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». On avait en fait circonscrit la fête de Noël à travers le concept de lumière. Il y avait un peuple qui marchait dans les ténèbres d'une part, et d'autre part il y avait une lumière qui s'élevait. Et alors la parole de Dieu dit « Cette lumière a apporté beaucoup de joie dans le cœur du peuple qui marchait dans les ténèbres ». Quand on a fait l'expérience de ténèbres, dans mon pays, souvent, il y a ce qu'on appelle le délestage. Le délestage, c'est-à-dire que les gens qui donnent, qui distribuent l'électricité, vont donner avant midi tel quartier l'électricité, après-midi, ils vont donner à tel quartier, et le soir, ils vont donner à tel quartier. Mais évidemment, on considère le quartier des ministres et des ambassadeurs, ces quartiers-là, ils l'ont 24 heures sur 24. Mais souvent, vous allez entendre dans un quartier, « Oh !» Et ils vont pousser un cri de joie. Vous demandez, « Qu'est-ce qui se passe ?» Non, la lumière est arrivée. Les gens se réjouissent. Ils doivent préparer, ils doivent alimenter leur frigo, ils doivent faire beaucoup de choses dans la ville. Ils ont besoin d'électricité. Alors, la lumière, quand elle arrive, les gens poussent un cri de joie. Et la parole de Dieu dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres, a poussé un cri de joie parce qu'ils ont vu jaillir la lumière. » Et cette lumière, nous l'avons vue toujours à Noël, dans l'évangile qu'on a proclamé le 25, on a pris l'évangile de Jean, le chapitre 1. On avait dit, au commencement, il était la parole, mais il est venu au milieu de nous et il est devenu lumière. Il était la lumière qui éclaire tout être humain venant dans ce monde. Donc, cette lumière, c'était en fait Jésus. D'après la présentation de Noël, cette lumière était Jésus. Alors donc, le peuple a découvert cette lumière et en reconnaissant en lui le Sauveur, le Messie, alors ils étaient remplis de joie. Pourquoi? Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres portait des chaînes. Ils étaient comme des esclaves. La venue du Sauveur était un message d'espérance pour eux. Ça apportait une lumière, ça apportait une lueur d'espoir pour ce peuple qui marchait toujours la tête basse dans les ténèbres. La parole de Dieu nous avait situé donc Jésus, la venue de Jésus comme la lumière des nations. Et le chant que nous avions chanté à Noël, c'était « En lui viens reconnaître ton Sauveur et ton Dieu ». Nous avions à faire cette démarche de foi. À travers un enfant, nous devions reconnaître le Sauveur. À travers un enfant qui est venu avec notre chair, comme dit la deuxième lecture, nous devions voir au-delà de la chair, voir la divinité, voir Dieu. Au-delà de la chair, de l'humanité de cet enfant, voir une lumière que Dieu a envoyée pour éclairer et nous éclairer dans nos ténèbres. Ça demandait un acte de foi. En lui, viens reconnaître. En ce jour, en ce dimanche de la présentation de Jésus au temple, il y a d'une part un peuple qui attendait et d'autre part, il y a comme la réponse à leur attente. Siméon incarne ce peuple qui attendait le Messie, ce peuple qui attendait la libération de Jérusalem. Et Jésus incarne la réponse de Dieu à cette attente. Il vient lui aussi comme la lumière pour éclairer les nations et pour redonner gloire à ce peuple qui était devenu méprisé. Voilà Jésus qui vient comme la lumière du monde. Nous devons l'accueillir. Voilà pourquoi deux choses se passent. D'une part, on voit Siméon qui va dans le temple. Il va attendre la réponse de Dieu dans le temple, dans la maison de Dieu. Nous voyons la prophète Anne vient dans le temple. C'est là où Dieu vient se manifester. C'est là où les gens vont chercher la lumière. Et la parole de Dieu nous dit, cette lumière au commencement était la parole. Aujourd'hui, où devons-nous aller chercher la lumière? Encore dans le temple. Pourquoi? Parce que c'est là que proclamait la parole de Dieu. La parole apporte la lumière. Le psaume dit ceci, que la parole de Dieu, c'est la lumière pour le pas. C'est-à-dire, le pas, c'est la lampe, pardon, pour le pas et la lumière pour la route. Le pas, c'est le présent. La route, c'est l'avenir. Donc, la parole de Dieu devient une lumière qui nous éclaire pour prendre nos décisions dans le moment présent, mais c'est aussi une lumière qui nous éclaire pour orienter notre vie jusque plus loin, plus loin. Voilà comment la parole de Dieu tourne autour de la lumière. Aujourd'hui, quand nous disons que c'est la fête de lumière, de quoi est-il question? Il est question de deux mouvements. Premièrement, il y a d'abord Jésus qui vient à nous, la réponse de Dieu pour sauver l'humanité, la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Jésus vient, il vient comme une lumière. Imaginez-vous que vous êtes dans la maison en train de chercher quelque chose. Vous cherchez quelque chose, vous ne trouvez pas. Vous recherchez en dessous des armoires, vous ne trouvez pas. La première chose que vous allez faire, c'est aller allumer la lumière. La lumière va vous faciliter la recherche. Ça va vous permettre de bien localiser les choses. La lumière vient pour nous aider. La lumière ne va pas prendre la chose et venir à notre main, mais ça va nous éclairer pour que nous puissions percevoir, pour que nous puissions distinguer, pour que nous puissions repérer, pour que nous puissions retrouver ce que nous sommes en train de chercher. C'est le rôle de la lumière. Jésus vient comme la lumière, justement, vers nous, la réponse de Dieu, dans nos recherches, dans nos questionnements, dans des situations qui nous font problème. Il vient comme la lumière. Ça, c'est la première manche de cette lumière. Et deuxièmement, la parole de Dieu dit dans l'évangile de Matthieu 6 qu'il nous a établis, nous aussi. Il nous a établis, la Bible dit, vous avez été établis sur la terre pour être la lumière et pour être le sel. Il y a d'une part Jésus qui vient comme la lumière, mais parce que quand il habite en nous, quand nous l'avons accueilli, alors à notre tour, nous devenons capables de porter sa lumière et nous devenons des lumières pour notre monde. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Voyez-vous, nous avons l'habitude à Pâques, nous allons allumer le cierge pascal et du cierge pascal, les gens viennent puiser le feu. C'est ça en fait. Ici, nous avons l'habitude pendant la messe, après la messe, on va éteindre le cierge. Mais initialement, dans l'ancien temps, la Bible disait « le feu de l'autel ne doit pas s'éteindre ». Pourquoi? Parce que les gens venaient allumer, les autres devaient allumer à partir du feu de l'autel. Il y avait toujours un feu qui était allumé et les autres allumaient à partir du feu qui était allumé. Si tout le feu était éteint, alors il n'y avait pas de feu pour allumer les autres feux. Voilà pourquoi la lumière de Jésus a été allumée. Alors, à notre tour, nous avons été connectés à lui. Notre lumière a été allumée, mais la responsabilité que nous avons, c'est que cette lumière demeure toujours allumée en nous. Quand cette lumière est allumée, nous pouvons passer le flambeau à quelqu'un d'autre ou aux générations à venir. Mais si notre lumière s'est éteinte, comment pouvons-nous passer le flambeau aux générations à venir? Ça devient impossible. Alors, cette lumière du Christ qui a été allumée et qui est venue habiter notre monde ne pourra pas être accueillie justement par le monde et par les générations qui viennent. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas maintenue allumée. Chaque fois que les gens se mettent ensemble, chacun avec son cierge, ensemble, imaginez ce qui se fait souvent, par exemple, quand on fait de vigile le jour de le 31 août, avec le 15 août, la fête de l'Assomption, ou encore quand on fait des vigiles la veille de la Pentecôte, le soir, tout le monde a un flambeau allumé. Et chacun, dans une grande assemblée, vous allez voir, et quand vous voyez à distance ce feu qui brûle à travers le mets de chacun, ça devient vraiment comme une grande lueur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement qu'une personne, mais tout le monde porte le flambeau allumé. Si chacun avait son feu allumé, cette lumière serait encore plus grande. C'est ça en fait le principe. Mais si nous n'allumons pas le feu que nous avons nous-mêmes puisé de la lumière du Christ, alors nous portons un problème. À chaque baptême, nous rappelons aux enfants, aux parents, pardon, en leur disant, voici, tenez cette bougie allumée, c'est la lumière du Christ. Prenez soin de cette bougie, de cette lumière, pour qu'elle s'allume toujours dans le cœur de votre enfant. Combien ont gardé ce feu allumé? C'est là le problème que nous avons aujourd'hui comme chrétiens dans le monde. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui comme église. C'est que plusieurs ont éteint leur feu. Alors les gens ne croient plus au premier feu qui est le Christ. Les gens ne croient plus à la première lumière qui est le Christ parce que nos lumières se sont éteintes. Comment pouvons-nous croire à la lumière du Christ si ceux qui ont reçu cette lumière n'ont pas su la garder? C'est là qu'intervient la deuxième partie de l'évangile. La Bible dit, voyez-vous, cet enfant ne sera pas simplement la lumière des nations, mais il sera aussi une occasion de chute. Il va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et deuxièmement, il sera un signe de contradiction. Il sera un signe de contradiction, voyez-vous. Et nous voyons la contradiction dans notre siècle aujourd'hui. Là, moi, ce qui m'étonne, sûrement vous autres aussi, remarquez simplement la plupart des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Je respecte ça, que quelqu'un dise qu'il ne croit pas en Dieu. Mais ce qui m'étonne, et c'est là le signe de contradiction, c'est qu'ils ne sont pas capables de croire en Dieu, mais ils sont capables de croire en Satan. Ils vont croire à Satan, ils vont croire au diable, ils vont croire à tout ce qui est maléfique. Ils vont croire à tout ce qui est occultisme. Ils vont croire en ça, mais ils ne vont pas croire en Dieu. C'est là la contradiction dans notre siècle. Voyez-vous, j'étais hier avec une fille du Québec qui voulait une prière de délivrance. Cette jeune fille-là d'une vingtaine d'années m'a dit que ma grand-mère était sorcière et elle m'a initié à la sorcellerie. Elle m'a dit, elle m'a entraîné à d'autres choses occultes. J'ai fait l'initiation une initiation orientale. J'ai fait l'initiation à des pratiques occultes. Elle m'a cité, je ne sais pas si c'est 10 initiations qu'elle a faites pour avoir du pouvoir, pour ouvrir les chakras, pour faire ceci, des initiations où elle devait obtenir un pouvoir. Mais seulement, quand on fait ce genre d'initiation et qu'on veut obtenir un pouvoir dans le monde occulte, en revanche, il y a toujours un prix à payer. Alors, je dis ceci, regardez la contradiction. La même jeune fille, quand on lui a présenté Jésus, Jésus dit, venez à moi, vous allez manger ou boire gratuitement. Je peux venir à Jésus, je peux le refuser, je suis libre. Je repartirai comme je suis venu. C'est gratuit, il n'y a pas de conditions. Il ne va pas me donner de conditions. Il ne va pas dire, tu as fait un pacte avec moi, voici ce qui va t'arriver. Mais les gens préfèrent, ils refusent ce qui est gratuit, ils préfèrent là où il faut payer, là où il y a des conditions, là où il y a des pactes. Les gens refusent ce qui est gratuit, ils préfèrent là où ils peuvent risquer, il y a des sacrifices à faire. Et c'est là la contradiction. Dieu propose gratuitement, les gens préfèrent aller payer des choses pour avoir le pouvoir. Nous sommes dans cette génération de contradictions. Allez voir avec des jeunes, les parents m'amènent souvent des jeunes de 13, 14, jusqu'à 16 ans, et c'est au bureau. Tu parles à ces jeunes et disent, non, nous ne croyons pas en Dieu. Non, je ne crois pas en Dieu. Mais il dit, je suis sataniste. Il passe sa vie à les découvrir sur Internet, sur le cellulaire. Il te montre comment il a voué sa vie à Satan. Il croit en Satan, mais il refuse de croire en Dieu. Voyez-vous, des contradictions dans notre monde, dans notre société d'aujourd'hui. On préfère cela. Imaginez un peu dans votre maison que vous devez chaque mois payer la facture d'électricité, mais que vous avez une maison avec des fenêtres vitrées, et que le soleil est là, en plein midi, le soleil est là, et la lumière peut entrer jusque dans votre maison gratuitement. Mais vous préférez allumer toutes les lumières et ça va vous coûter une facture à la fin du mois. Mais le soleil est là gratuitement, vous avez les rideaux fermés. Vous préférez allumer et à la fin du mois vous avez une facture. Alors qu'il suffisait simplement d'ouvrir les rideaux et la lumière entrerait dans votre maison gratuitement. C'est ça la contradiction de notre monde aujourd'hui. Et la Bible dit, il sera un signe de contradiction. Il viendra comme la lumière, mais les gens vont préférer les ténèbres. Il va venir pour offrir le salut et la libération, mais les gens vont préférer aller se mettre de chaînes librement dans des initiations et dans des mouvements occultes. Il vient pour libérer, les gens préfèrent aller s'enchaîner. Il vient en se donnant en sacrifice, les gens préfèrent aller faire des sacrifices. La contradiction. On en est là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire de constater qu'il y a la contradiction au milieu de nous, mais c'est une affaire de réassumer notre responsabilité en tant que lumière. Nous sommes établis pour être la lumière du monde. Nous sommes établis sur la terre pour être le sel de la terre. Nous devons réassumer cette responsabilité-là. Et la façon de l'assumer, c'est aussi de penser à prier. Apprendre à prier pour ces jeunes. Apprendre à prier pour toutes ces personnes qui ont fait le choix de la contradiction. Parce que Jésus est venu pour eux aussi. Chaque fois que nous prions pour eux, nous attirons la compassion de Dieu et nous attirons la miséricorde de Dieu. Alors il ordonne à ses anges de se mettre en branle pour opérer dans la vie de la personne. Mais nous, nous devons prier. Nous ne devons pas nous contenter de la messe. Nous devons nous donner ce devoir-là dans notre maison, prendre le temps de prier pour nos enfants, prendre le temps de prier pour les gens autour de nous, les enfants de nos voisins, même s'ils ne viennent pas à la messe. Mais prier pour eux, c'est une responsabilité chrétienne pour tout enfant de Dieu. Apprendre à prier, se donner cette permission-là. Les gens du monde critiquent, ils observent, mais nous, nous n'observons pas seulement, nous devons nous mettre en action, nous devons prier. Je vous encourage vraiment à prendre un peu de temps pour prier pour les gens autour de vous. Dans votre quartier, priez pour les jeunes. Dans votre quartier, priez pour les gens qui ont fait le choix de la contradiction. Priez pour eux. C'est la meilleure chose que nous pouvons leur offrir, c'est notre prière. Alors Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Il va, à travers des circonstances, à travers le temps, à travers des personnes, sa lumière va aller jusqu'à eux pour dévoiler le manigance des ténèbres et pour les amener justement à jouir eux aussi de cette lumière. C'est ma prière pour chacun de nous en cette fête de lumière, que cette lumière éclate et atteigne les zones des ténèbres. Amen.